9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Le matin, matin hivernal du 15 février 1717, aux Tuileries, le petit Louis XV fête ses 7 ans. Il se réveille de bonne humeur, son joli visage toujours plein de gaieté, et comme tous les jours, il voit, de son regard très noir, très joli d'ailleurs, la silhouette large, réconfortante, de sa gouvernante. Sa gouvernante, c'est la duchesse de Ventadour. C'est elle qui veille à tout de ce qui concerne ce petit roi, entouré de son essaim de domestiques. Madame de Ventadour est une femme de 62 ans, d'excellente naissance. Il faut vous dire que sa mère, déjà avant elle, avait été gouvernante des enfants de France. Son air est respectable et l'on voit tout de suite, lorsqu'on la regarde, qu'elle a été belle et même sans doute très belle. Il subsiste de tout cela une véritable douceur qui emprunte son visage et d'une façon plus générale, qui emprunte toutes ses manières. Madame de Ventadour est le repère. Elle est l'axe de la vie du jeune roi qui est devenu orphelin très jeune. Il est habitué à sa tendresse, à sa présence et d'ailleurs, il l'appelle « maman ». Seulement, ce 15 février 1717, même si Louis XV semble ne pas bien le réaliser, ça va être pour lui la première grande rupture de sa jeune vie, puisqu'il est prévu que ce jour-là, puisqu'il a 7 ans, il passe aux hommes. Passer aux hommes, vous savez, c'était toute une cérémonie dans l'ancien temps. C'est le moment où Madame de Ventadour va devoir passer le relais de son éducation à une équipe masculine qui sera censée préparer le jeune roi à devenir un homme et surtout à devenir un grand roi. Ainsi, vers 9h30, le duc d'Orléans, c'est le régent, c'est lui le patron du royaume en attendant que le roi soit majeur, le duc d'Orléans paraît chez le roi, suivi de toutes sortes de hauts personnages de la cour, on prend des airs importants, on se chuchote à l'oreille des phrases qui ont l'air très importantes. Madame de Ventadour s'adresse au régent, elle désigne le petit Louis XV. « Voilà le dépôt que le feu roi m'a confié et que vous m'avez continué. J'en ai pris tous les soins possibles et je le rends en parfaite santé, » dit-elle. Le régent la remercie, il confie le garçonnet au vieux maréchal de Villeroy, qui désormais s'occupera de lui. De la gouvernante, le jeune roi passe au gouverneur. Le moment de la séparation finit par arriver et là, Madame de Ventadour sent sa gorge se serrer. Elle s'abaisse vers l'enfant roi pour lui baiser les mains délicatement. Seulement là, le petit Louis XV se jette contre elle dans une étreinte désespérée. Et pour qu'on ne le voie pas pleurer, il va dissimuler son visage derrière un petit chapeau. Maladresse touchante, tout le monde a plus ou moins les larmes aux yeux dans la chambre. « Sire, dit la gouvernante, il faut écouter la raison maintenant. Ah maman, je ne connais plus de raison quand il faut m'éloigner, me séparer de vous, dit l'enfant. » Il est obligé néanmoins de s'y résigner. La vieille dame finit par quitter la pièce et le petit Louis XV, les yeux humides, va suivre le cours de sa journée. Au fil des heures, on le verra chercher tristement sa maman Ventadour du regard. Alors elle reviendra bien sûr un petit peu, mais il va devoir s'habituer. La présence rassurante de Madame de Ventadour ne sera plus désormais le centre de sa vie. Ce lien si fort qui unit l'enfant roi et sa gouvernante trouve sa source 5 ans plus tôt dans des événements dramatiques qui ont marqué la fin du règne de Louis XIV. Imaginez que nous soyons à Versailles pendant l'hiver 1712. Le futur Louis XV, à l'époque, n'est que le duc d'Anjou et il a seulement 2 ans. Il n'a même pas tout à fait 2 ans, d'ailleurs. Il est déjà, avec son grand frère, sous la garde attentive de Madame de Ventadour. Les parents, ce sont le duc de Bourgogne, premier petit-fils de Louis XIV, et sa femme, la duchesse de Bourgogne, un couple jeune, actif, ambitieux. En tant que dauphin et dauphine, on peut dire qu'ils incarnent un peu l'avenir, si vous voulez. Ils sont tout l'espoir souriant du royaume. Il faut dire que la cour du vieux roi ne présente pas une atmosphère très réjouissante. La guerre épuisante que mène Louis XIV depuis plus d'une décennie contre toute l'Europe se passe mal. Pour ne rien arranger, tout le monde est préoccupé par une épidémie de rougeole qui fait des ravages à l'époque. Nous sommes bien placés pour comprendre ce que ça peut donner. Et chaque jour, la triste liste des personnes infectées et celle plus triste encore des personnes qui en sont mortes vient à s'allonger. Début février, la charmante duchesse de Bourgogne, qui donc est la mère de notre petit duc d'Anjou, la duchesse de Bourgogne est touchée. Et très vite, elle qui pourtant était si vive, si joyeuse, très vite elle s'affaiblit. Madame de Maintenon s'en émeut dans une lettre. Madame la Dauphine a une fluxion qui lui fait une douleur fixe entre l'oreille et le haut de la mâchoire, écrit-elle. Elle a des convulsions et elle crie comme une femme qui est en travail. Autrement dit, qui serait en train d'accoucher. Le mal ne pardonne pas. Et dès le 12 février, la princesse, qui pourtant n'avait que 26 ans, vous imaginez ça, la duchesse de Bourgogne rend son dernier souffle. Et ça, ça n'est qu'un début, puisque le mari, le duc de Bourgogne, est frappé lui aussi, et une petite semaine suffit à ce qu'il disparaisse à son tour. La cour est sidérée, tétanisée, et bien sûr, on craint maintenant beaucoup pour la santé des deux fils du couple disparu. Et on a raison de s'inquiéter. À la charnière entre février et mars, les petits princes sont à leur tour atteint de symptômes qui se révèlent inquiétants, l'aîné se met à saigner dangereusement du nez. Quant à Anjou, le plus petit, qui est tout fiévreux, on le trouve bientôt secoué de convulsions. Et le médecin Fagon, premier médecin du roi, assure qu'il s'agit du mal qui a terrassé les parents. Le 9 mars, avant 1h du matin, l'aîné, qui était à bout de souffrance, finit par rendre l'âme à son tour, et de trois, si je puis dire, pour la famille royale et pour les héritiers directs de Louis XIV. Beaucoup, à ce moment-là, ne donnent pas cher de la vie du petit duc d'Anjou, qui lui-même est dans un état inquiétant. Les médecins sont là, autour de son lit, à essayer de faire usage de leur latin et de leur rasoir, les rasoirs pour les saigner, bien entendu, et puis de tout leur purgatif. Seulement là, Madame de Ventadour intervient. « Celui-ci, vous ne le tuerez pas. Hors de question qu'on touche à cet enfant chétif. » Avec une détermination assez incroyable et qui va changer le cours de l'histoire de France, il faut bien le dire, elle décide d'éloigner les médecins de la chambre de son petit protégé. Elle décide de le tenir bien au chaud, nous dit un témoin. C'est risqué parce que tout de même il s'agit du nouveau dauphin de France. Seulement, maman Ventadour croit que son instinct lui donne raison. Elle croit davantage en sa capacité à protéger l'enfant qu'en la médecine du temps. Et entre nous, je ne pense pas qu'on puisse lui donner tort. Calotin, une pièce pour clavecin de Couperin, interprétée ici par Bertrand Cuiller. Les médecins se font la guerre, littéralement. Il n'y en a pas deux qui soient d'accord sur le diagnostic, il n'y en a pas deux qui soient d'accord sur le remède à adopter, il y a des clans qui se forment, etc. Ça devient complètement dément. La seule chose qui les met d'accord, c'est que si on ne leur confie pas l'enfant, il va mourir. Sauf que la gouvernante et les femmes qui l'épaulent vont tenir bon, malgré toutes les pressions, vous imaginez, elles sont très importantes. Elles s'en tiennent à leur stratégie pour protéger le nouveau dauphin de 2 ans qui est à l'article de la mort. Dans Le Petit Louis XV, voici ce que nous raconte Pascal Mormiche. Madame de Ventadour use du pouvoir conféré par le roi dans son emploi de gouvernante, de toute son autorité contre les médecins du roi, les médecins du dauphin, le chirurgien Pierre Dionis. Aucune des femmes ne permet de faire une saignée à l'enfant, ni de lui faire ingurgiter un quelconque remède prôné par ses médecins. La gouvernante aurait elle-même choisi une décoction à administrer au petit malade. Elle fait, si on peut dire, de l'automédication. C'est un contrepoison, avanceront certains. Quoi qu'il en soit, la stratégie fonctionne. Le dauphin, petit à petit, se met à aller mieux, et même nettement mieux. La réalité n'en reste pas moins terrible, puisqu'il va devoir grandir maintenant sans parents, sans frères. au bout de l'hécatombe qui marque la famille royale dans ces années-là, il va devenir le seul descendant légitime vivant de Louis XIV. Voilà qui quand même est lourd à porter quand on n'est qu'un petit enfant. Toute la cour ne cesse d'observer ce gamin. Chaque maladie qu'il peut connaître déclenche une avalanche de commentaires et, disons-le, de pronostics. Madame de Ventadour, qui bien sûr partage un certain nombre des inquiétudes de l'entourage, reste néanmoins dans son rôle. Elle est solide, elle est armée de son bon sens, de ses prières. Son lien avec cet enfant qui s'entête à survivre s'approfondit au fil des mois et au fil des années. Et voici l'été 1715. En plein mois d'août, Louis XIV, qui n'est pas tout à fait âgé de 77 ans, à l'époque c'est un âge canonique, Louis XIV tombe malade. Les jours passent, il devient clair que le roi ne va pas en réchapper et vient le moment des adieux. Et c'est à Madame de Ventadour, bien sûr, qu'on demande de préparer, d'apprêter le petit garçon et de le conduire auprès du lit du roi mourant. La gouvernante obéit, elle paraît donc avec le petit dauphin, face au roi allongé, le visage épuisé, amaigri. Il y a de quoi chavirer l'enfant qui connaissait quand même son arrière-grand-père dans un bien meilleur état. Louis XIV s'adresse au petit Louis avec solennité. « Mignon, vous allez être un grand roi, mais tout votre bonheur dépendra d'être soumis à Dieu » et du soin que vous aurez de soulager vos peuples. » Alors il y a des phrases qui deviennent célèbres, qu'on connaît par cœur évidemment, écrasantes pour celui qui ne peut pas comprendre ce que signifie devenir roi. Louis XIV parle de paix, de guerre, de nécessité, de veiller à soulager le peuple, et bientôt, des larmes se mettent à mouiller les yeux de l'enfant qui comprend surtout que son dernier parent en ce monde est en train de disparaître. Et 6 jours, effectivement, 6 jours seulement après cette grave entrevue avec l'arrière-grand-père, l'enfant est devenu le roi Louis XV. Par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. Vous connaissez la formule, le roi est mort, vive le roi. Et ça implique ça, qu'au fil des semaines, toute une suite confuse de cérémonies lourdes et complexes s'abattent sur les épaules de cet enfant et puis surtout on le fait partir de Versailles. Lui et Madame de Ventadour se sont dans un premier temps installés au château de Vincennes, mais bientôt on les rapatrie à Paris, au palais des Tuileries, puisque le régent a décidé du retour du pouvoir à Paris. Louis XV, a beau être roi, il n'en reste pas moins un enfant. Et sa gouvernante poursuit le travail de pédagogie que l'on fait pour un enfant. Avec jamais trop loin d'ailleurs, le duc d'Humaine. Le duc d'Humaine est le fils légitimé de Louis XIV qui a été chargé de la surintendance de son éducation. Et puis surtout, il y a là, pas loin, le maréchal de Villeroy qui est gouverneur du roi et qui anticipe un petit peu le rôle qu'il tiendra lorsque l'enfant sera passé aux hommes. Je cite encore Pascal Mormiche. « Quelle est donc à cette date la marge d'autonomie de Madame de Ventadour ? Cette douce et accommodante femme ne dit pas un mot de ce qu'on peut considérer comme une usurpation de charge. » Oh non, elle est bien trop légaliste et bien trop droite, Madame de Ventadour, pour se plaindre. Et puis disons-le, elle connaît Villeroy depuis longtemps. Après tout, Saint-Simon assure qu'il a été son plus que bon ami d'ancien jeu. J'aime bien les expressions de Saint-Simon. Son plus que bon ami d'ancien jeu. C'est elle qui continue de prendre le soin le plus direct du précieux enfant de toute façon. Elle est là à constamment surveiller ses manières. Elle s'effraie qu'il soit astreint à beaucoup d'obligations parce qu'elle sait que cet enfant est émotif, qu'il est parfois renfrogné et à l'occasion capable de gros énervements. C'est aussi un enfant secret, défiant. Il faut vous dire quand même qu'il évolue dans une atmosphère saturée de lutte de pouvoir. Les frayeurs sont là à chaque porte, si je puis dire, oppressantes pour la santé d'un enfant. Et bien sûr, Maman Ventadour est là pour essayer de le protéger. Il s'agit, quand c'est possible, de le laisser souffler un peu dans un environnement plus tendre et plus familier. Certains sauront critiquer une supposée tendance au relâchement chez la gouvernante. À leurs yeux, disons qu'elle est un petit peu... Elle n'est pas assez royale, voilà. Elle est trop humaine, si vous voulez. Et voilà que Louis XV atteint donc ses 7 ans et que c'est le moment du fameux passage aux hommes que je vous racontais. Il lui faut quitter sa chère maman. Le roi est loin d'être abandonné. La phase de transition passée, il va se faire à son nouvel équilibre quotidien sous l'œil de serviteurs qui sont bienveillants, qui sont très présents. Et puis, Madame de Ventadour n'est pas renvoyée dans l'arrière-coulisse de l'histoire. 4 ans après, en 1721, alors que Louis XV a 11 ans, il est décidé de l'unir à une infante espagnole qui, elle, n'a que 3 ans. Donc, c'est une fillette qui va arriver en France, pour ne pas dire un bébé. Il va falloir l'élever en attendant qu'elle ait l'âge requis pour un mariage. Et qui, d'après vous, va-t-on nommer pour s'occuper de cet enfant ? Évidemment, l'affectueuse Madame de Ventadour. Flumina Babylonis, un des merveilleux grands motets de Michel Richard de Lalande. Le chœur et l'orchestre du Palais Royal étaient sous la direction de Jean-Philippe Sarcos. Le 9 janvier 1722, Madame de Ventadour fait donc partie de cette délégation qui est chargée de recevoir l'infante Marianne Victoire sur l'île des Faisans, donc sur la frontière franco-espagnole. Elle découvre une adorable fillette aux cheveux clairs. La gouvernante va ensuite l'accompagner jusqu'à Bourg-la-Reine, au sud de Paris, où elle sera présentée au tout petit roi, son futur mari. Vous imaginez le couple. C'est une entrevue pénible puisque l'adolescent roi, 1722, il a 12 ans, vous voyez, il donne une superbe poupée à sa promise, mais à part ça, il ne sait pas trop quoi dire à cet enfant qui haute comme 3 pommes. Vous imaginez, on est presque dans une scène qui est désolante et ridicule. C'est un moment gênant, disons. Mais ce moment passé, la gouvernante mène l'infante en cortège jusqu'au Louvre. Là, elle va lui faire profiter de son expérience pédagogique. Elle va la familiariser avec toutes les subtilités de cette terrible cour de France. Elle paraît vite satisfaite de cet élève qui est agréable. Et là aussi, elle va être là pour réconforter l'enfant de temps à autre. Parce que c'est vrai que la fillette s'afflige d'être loin de sa famille, loin de son pays. Et puis, elle trouve que son futur mari n'a pas beaucoup d'allant. Au-delà du problème de la différence d'âge et du caractère très peu expansif de Louis XV, certains ont vu dans son attitude avec l'infante une forme de jalousie peut-être vis-à-vis de l'affection que Madame de Ventadour porte à la petite fille. Comme si sa maman Ventadour ne pouvait se montrer tendre qu'avec lui. Quoi qu'il en soit, le destin de l'infante ne tarde pas à basculer et dès 1725, vous savez qu'on va décider, quitte à se brouiller avec la cour de Madrid, de la renvoyer outre Bidassoa, si je puis dire. Elle a 7 ans à ce moment-là. Quel est le motif principal ? C'est que la santé de Louis XV reste frêle et qu'il va falloir le marier au plus vite avec une femme en âge de procréer, alors que la petite infante espagnole est beaucoup trop jeune. Et donc on le mariera, vous le savez, à la douce Marie Leszczynska, la fille d'un roi détrôné de Pologne. On peut dire que dans l'occasion de ce changement d'alliance, le pouvoir français va manquer de manière. Je cite l'un des biographes de Louis XV, Jean-Christian Petit-Fils. Le 5 avril 1725, Marianne Victoire quitta Versailles avec ses robes, ses poupées et une profusion de jolis cadeaux. On lui fit croire qu'elle allait rendre visite à ses parents en voyage à la frontière espagnole. Beaucoup de personnes versèrent des larmes en voyant s'éloigner son carrosse. Louis XV s'était rendu à Marly afin de s'épargner un hypocrite au revoir. La pauvrette apprendra son malheur en traversant la Bidassoa. Madame de Ventadour, elle est déjà septuagénaire, hein. Elle s'est refusée elle aussi à reconduire à travers le royaume cet enfant qu'elle aimait beaucoup. C'est une parenthèse qui se referme sur la jolie petite infante, et une autre ne va pas tarder à s'ouvrir. Quand, à son tour, Louis XV, qui a 17 ans maintenant, devient père de deux petites jumelles en 1727, qui va reprendre son service de gouvernante des enfants de France ? Maman Ventadour, bien sûr. Elle est quand même de plus en plus aidée par une de ses petites filles qui a obtenu la survivance de la charge et qui progressivement va la remplacer et s'attacher ainsi aux nombreux enfants que son ancienne élève a bientôt avec la reine Marie. La vieille gouvernante paraît presque faire partie de la famille. Je vous dis, le roi l'appelle maman. Les princesses lui manifestent leur tendresse. Le roi lui dispense toutes sortes de privilèges, lui envoie des lettres affectueuses. Et c'est lui maintenant qui s'inquiète quand parfois la santé de Maman Ventadour vient à flancher. Elle va, cette duchesse, entretenir le flou sur son âge. Elle s'ajoute quelques années, à moins qu'elle-même ne soit plus très certaine de son âge réel. Une chose est sûre, elle n'est pas éternelle. Et en décembre 1744, ce qui veut dire qu'elle a quand même environ 90 ans, un mal la saisit soudain. La voilà dans un coma annonciateur d'une fin proche. Alors la reine Marie reste à ses côtés. Il n'y avait plus même dans ce moment personne de sa famille, raconte le chroniqueur Luynes. Mais la piété de la reine la détermina à ne point éviter un spectacle aussi triste qu'il est instructif. Louis XV avait perdu sa mère quand il avait moins de 2 ans. À 34 ans maintenant, celle qu'il voit partir, c'est sa maman. Un grand merci à Bertrand Dorigny, à Yann Levray et à Francis Drezel et Jérémy Bigori pour le travail parfois acrobatique qu'ils accomplissent pendant cette période singulière. Merci à eux et bonjour à Christian Morin. Bonjour Christian.
J'abonde tout à fait dans ces remerciements, vous vous en doutez, mon cher Franck. Bonjour, comment allez-vous ce matin ?
Mais très bien, écoutez, ma foi, avec ce beau
alors,
temps.
Je vous écoutais avec intérêt raconter ce parcours de ce jeune enfant, Louis XV, donc, que je ne connaissais pas personnellement, mais c'est pour ça, d'où l'intérêt de vous écouter tous les matins à 9h. Et je voudrais vous poser une question, parce que j'avais entendu en revanche parler d'une petite chose concernant ce passage aux hommes que vous évoquiez en début d'émission, ce passage vers la maturité. Mais à 7 ans, c'est quand même très très tôt et assez dur pour un enfant. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait eu, il fallait l'égayer un peu le soir pour le divertir. Il n'y avait pas la télévision ou les jeux vidéo comme l'on fait aux enfants un petit peu énervés dans la journée en disant regarde la télévision, détends-toi ou prends un livre. Il y a eu, et est-ce que je me trompe, il y a eu un petit théâtre de marionnettes qui avait été construit pour le divertir.
Ah oui, alors ça, c'est l'abbé de Fleury, vous savez, l'abbé de Fleury qui va devenir cardinal.
Ah, c'est pas une légende, hein, donc.
Qui sera le premier ministre de Louis XV. Et c'est vrai qu'il avait pris l'habitude d'essayer de distraire le plus possible son pupille, comme il pouvait. Encore une fois, ce petit roi était dans un état de solitude incroyable, vous imaginez. Il était sans famille, tout simplement.
Bien sûr.
Et donc, effectivement, dans un moment un peu dur, en rentrant chez lui dans ses appartements, il a trouvé un théâtre de marionnettes qui avait été bâti et qui lui a donné un spectacle propre peut-être à le réconforter, c'est vrai.
J'espère bien. Alors pour nous réconforter sur l'histoire, avec un moment important aussi, en 1945, c'est Yalta que vous allez évoquer.
Alors,
à
oui.
14h.
2 siècles plus tard, n'est-ce pas ? Alors ça, Yalta, on est dans le 75e anniversaire, hein. Nous parlions du 8 mai 1945, l'autre jour, 7 et 8 mai en fait, puisque vous savez que la cessation,
la
capitulation voilà, a été signée dans un premier temps à Reims le 7, et puis ensuite le 8 au soir, le 9 au matin si l'on préfère à Berlin. Et bien là, nous remonterons de quelques semaines en arrière pour évoquer
février,
la dernière des grandes conférences. Voilà, c'est un peu la conférence de partage du monde et de l'Europe entre les alliés qui préparent la fin de la guerre
sur le,
donc
gens,
en Crimée, à Yalta.
Comme beaucoup de gens s'est toujours posé la question de l'absence du général de Gaulle sur cette photo avec Churchill,
Stalin
et Roosevelt.
Ah oui, non, les Français ne comptent pas là. Exactement. Et c'est d'ailleurs Churchill qui va défendre les intérêts de la France et qui va faire en sorte que nous ne soyons pas tout à fait oubliés dans les événements de la libération.
Remercions les Anglais.
Oui, c'est vrai.
Je vous souhaite une excellente journée, bon week-end, et puis on se retrouve bien sûr lundi matin. Bonne journée, Franck.
Bon week-end à vous.